On a donc le plaisir d'accueillir pour ce temps consacré aux 2-5 ans et aux spécificités de l'école maternelle. On a le plaisir d'accueillir Viviane Bouys, inspectrice générale de l'éducation nationale, spécialiste reconnue de l'école maternelle et auteur de nombreux ouvrages. Donc, je vais lui passer la parole pour une introduction, la solliciter, comme je l'ai essayé de l'expliquer ce matin, sur des notions de la spécificité des parcours et des apprentissages pour cet âge-là. Tout le monde sachant que dans la mise en œuvre de la réforme des rythmes et le développement des PEDT, il y a eu des questions particulières à cet âge, à l'école maternelle, qui d'ailleurs ne sont sans doute pas toutes résolues dans ces mises en œuvre. Quand on observe les PEDT, on peut d'ailleurs voir que relativement peu d'entre eux ont pris en compte cette spécificité. C'est un peu partout une piste de travail et de réflexion qui n'est pas résolue. Donc, pour rester dans l'axe de cette journée qui vise à interroger les contenus. C'est bien donc sur ces questions de spécificité en termes de contenu d'apprentissage sur tous les temps éducatifs nous allons entendre Viviane Bouys et qu'ensuite on aura un temps évidemment d'échange. Merci et je vous donne la parole.
Merci Monsieur Fournel, bonjour à toutes et à tous. Alors écoutez, si la maternelle n'est pas encore beaucoup dans les PEDT, mais j'ai bien compris parce que j'ai trouvé que ce n'était pas facile d'organiser le propos sur ces questions-là. Donc je vous propose une première réflexion, très modestement, avec quelques diapositives que j'ai préparées pour poser les choses. Mais je pense que c'est plutôt dans l'échange qu'on construira éventuellement les réponses à vos questions. Premier point, j'avoue que pour moi, le concept de réussite éducative ne va pas de soi. C'est une des choses qui m'a toujours un peu interrogée. Ou c'est trop général, ou alors je ne sais pas le spécifier. Mais enfin, j'ai trouvé quelque chose qui m'a beaucoup rassurée, c'est le propos de Georges-Paul Angevin, qui avait lancé cette réflexion-là, et qui disait entre autres, lier réussite scolaire et réussite éducative, c'est reconnaître que l'élève et l'enfant ne sont pas deux êtres distincts. Et je me suis dit que ça me convenait bien pour démarrer un travail sur l'école maternelle, puisque je pense que c'est le moment le segment du parcours scolaire dans lequel cette absence de distinction est aussi évidente, quoi, enfin, ou devrait être. Je vais poser mon propos comme étant un peu celui de l'idéal, on va dire. Après, on pourra discuter des réalités. Hein, puisque le projet de l'école maternelle est bien de faire, si on peut le dire comme ça, que chaque enfant, à partir de ce qu'il est en arrivant, et ils sont parfois très jeunes et ils viennent parfois de milieux très éloignés du milieu scolaire, ou en tout cas des attentes du milieu scolaire, que chaque enfant construise une posture d'élève, prenne le temps, alors j'ai mis avec de l'aide, parce que je crois qu'on ne devient pas un élève si spontanément que ça, de devenir un élève. Alors, rien que cette question-là est une question qui ne va pas de soi pour les professionnels de l'éducation. Devenir élève. C'est une expression qui a été utilisée dans le programme de l'école maternelle à partir de 2008. Je ne sais pas quelle est la familiarité que vous avez les uns et les autres avec nos débats internes au système scolaire. Cette proposition en 2008 a fait problème pour beaucoup de professionnels de l'école maternelle. Alors qu'au fond, elle se fondait sur les travaux d'un certain nombre de sociologues qui avaient mis en évidence à quel point l'écart, on va dire, entre la culture scolaire et les éléments de socialisation familiale ou extra-familiale qu'avaient connu les jeunes enfants était important, et à quel point finalement certains arrivaient à l'école maternelle quasiment dans une peau d'élève, alors que d'autres n'avaient même jamais le temps de construire cette identité d'élève. Bon, c'est quelque chose sur quoi on pourrait discuter longtemps. C'est quelque chose qui n'a pas toujours été bien interprété, y compris par les corps d'inspection. Je sais qu'il m'est arrivé d'intervenir auprès de certains inspecteurs qui se réjouissaient qu'avant la fin du premier trimestre de la petite section, on puisse dire « Oh, c'est bien, ils sont tous élèves, là, sages, formatés, etc. » Non, non, ils ont le temps de devenir élèves. J'ai toujours insisté personnellement sur le verbe « devenir ». L'idée qu'il y a un processus et que l'école maternelle doit accompagner, soutenir ce processus qui permet aux enfants de devenir des élèves. L'idéal, c'est que quand ils vont quitter l'école maternelle, tous les enfants aient acquis finalement une envie d'apprendre et des possibilités d'apprendre, des compétences qui leur permettent de s'adapter bien à l'école élémentaire. Alors, on reviendra sans doute là-dessus, mais c'est quelque chose qui ne va pas de soi et qui, pourtant, devrait être évidente. Par parenthèse, le programme qui a été accepté hier par le Conseil supérieur de l'éducation de façon apparemment très, très favorable, 50 voix pour, oui, aucune voix contre et 4 abstentions, abandonne l'expression « devenir élève » ou l'enfouit dans ses profondeurs. Mais la loi qui redéfinit l'école maternelle dit que, finalement, les enfants vont y découvrir le plaisir d'apprendre pour devenir élève. Donc, la question que je me posais, la réussite scolaire est-elle autre chose à l'école maternelle qu'une réussite éducative ? D'ailleurs, qui ose parler de réussite scolaire à l'école maternelle ? On ne le dit pas. On attend que ça. Mais on ne le dit pas. Et je pense que le fait qu'on n'ose même pas le faire, qu'on n'ose même pas le dire, est en soi un symptôme qui devrait nous intéresser. Mais bon, peut-être que votre débat n'est pas sur réussite ou pas réussite scolaire. Quel sens donner à cette expression ? Alors, évidemment, on va se référer au texte officiel pour réfléchir là-dessus. On va dire qu'elle, au titre de la réussite scolaire, on va regarder comme important un certain nombre d'apprentissages techniques, et de plus en plus, qui permettent d'entrer avec de bonnes chances de réussir, c'est comme ça que je l'écris, dans les apprentissages systématiques et structurés du CP. Vous voyez la précaution qu'il y a là-dessous, c'est bien de faire entendre que l'école maternelle, si elle prépare aux apprentissages systématiques et structurés du cours préparatoire, n'anticipe pas sur ces apprentissages-là. Ce qui est un problème, je crois, dans un certain nombre d'endroits, où finalement les parents exercent une pression sur l'école extraordinairement forte, puisqu'ils ont entendu, et on le leur a assez dit dans les dernières années, que l'école maternelle est une école. Et si c'est une école, on veut voir des signes de ce qu'elle enseigne. On voit bien comment ce terme d'apprentissage, qui pour nous a un certain sens et qui ne veut pas dire, les apprentissages, ce n'est pas que du français et des mathématiques, ce n'est pas que de la lecture et de l'écriture, mais ça peut être entendu de cette façon-là. Il me semble que dans les dernières années, en tout cas, c'est ce que le rapport des inspections générales publié en 2011 sur l'école maternelle disait. Dans les dernières années, on a senti une pression à la fois institutionnelle via certaines évaluations et parentale sur les manières de travailler de l'école maternelle. Ce n'est pas le plus mince des défis que de rétablir un équilibre convenable aujourd'hui. Parce qu'il y a des représentations, il y a des attentes, et ces représentations et ces attentes vont plutôt dans le sens de cette sorte de rentabilisation précoce des capacités cognitives des enfants. Quoi. Alors, on sait aussi qu'il y a effectivement des capacités importantes hein, chez certains jeunes enfants, mais c'est une des questions. Et je pense que c'est un débat qu'il faudrait avoir sur les apports du PERI. Comment finalement on peut se situer dans cet accompagnement, dans ce soutien, dans ce renforcement, j'y reviendrai tout à l'heure, de ces apprentissages techniques, sans céder à des demandes qui sont excessives et prématurées. Pour donner un exemple quand même, nous avons trouvé dans certaines écoles maternelles des enseignants sous la pression, c'était avant les rythmes, hein, notre rapport, avant la réforme des rythmes scolaires, des enseignants sous la pression, on va dire, des familles qui en étaient venues à dire que leurs enfants travaillaient plus dans la garderie périscolaire qu'à l'école maternelle parce qu'ils sortaient de la garderie avec des fiches. Il y avait une sorte de concurrence qui s'était installée dans un milieu milieu favorisé entre Blagnac et Toulouse, vous voyez ce secteur où effectivement on avait là quelque chose d'assez étonnant. C'est pour moi un grand motif d'inquiétude sur ce qui vient. Deuxième point sur la réussite scolaire, pour nous, à l'école maternelle, enfin je dis pour nous, qui regardons l'école maternelle peut-être d'un peu loin et qui ne sommes pas les acteurs directs de cette école, concourent à la réussite scolaire à l'école maternelle ces apprentissages qui ont d'autres fonctions que de préparer au cours préparatoire et qui sont plus liés à un épanouissement plus global de la personne. Alors, associé à ces apprentissages, on peut dire qu'il y a tout ce qui concerne les activités physiques. On ne dit pas EPS à l'école maternelle, mais enfin, on est sur ces aspects-là. Toutes les activités artistiques, toutes les activités, on va dire, de découverte du monde au sens où on peut l'entendre à l'école maternelle, c'est-à-dire à partir de l'environnement proche, comment se sentir à l'aise dans un milieu, comment acquérir de l'autonomie. On voit bien et de plus en plus que de nombreuses recherches mettent en évidence tout de même les liens entre tout ce qui est de l'ordre de la cognition, ce qui est de l'ordre de la motricité, ce qui est de l'ordre de l'émotion. On voit bien que la réussite cognitive, en particulier, ne peut pas être indépendante d'autres formes d'épanouissement. Je le disais ce matin dans une autre conférence là avec un autre public à Lyon. Notre constat, je le dis parce que ça aussi, pour moi, c'est important par rapport au PERI. Notre constat dans le temps de l'école, c'est que l'on continue à ménager, je dirais régulièrement et quasi quotidiennement. Alors maintenant, les 9 demi-journées, on va dire au moins sur 4 jours, une séance de motricité. Quand on regarde des emplois du temps, le fait que les enfants aient au moins une séance de motricité chaque jour, c'est à peu près réalisé. Ce qui s'est complètement réduit, qu'il s'agisse du temps qu'on y consacre et de l'importance qu'on y accorde, de l'importance symbolique, de ce que l'on attend aussi, ce sont toutes les activités d'expression et toutes les activités artistiques. Oui, Je disais aux collègues ce matin auxquels je parlais, je travaille cette année dans le groupe de l'inspection générale chargé de rendre un rapport sur les effets pédagogiques de la réforme des rythmes. Donc nous sommes attachés à cela et nous ne voulions pas en tout début d'année aller dans les écoles, en particulier celles qui ont changé de rythme. On ne peut pas voir les effets en 3 mois, quoi. Donc on s'est dit on ira plutôt dans les écoles dans la dernière partie de l'année et on va travailler dans la première partie sur des emplois du temps de classe, voire en comparant des emplois du temps de la même classe l'an dernier pour la même période à ce qu'ils sont cette année. J'ai donc dépouillé un peu plus de 120 emplois du temps de classe maternelle. Et je disais ma surprise de n'avoir trouvé sur ces un peu plus de 120 qu'un emploi du temps. Un dans lequel on voit une fois dans la semaine une séance dite d'éducation musicale. Le chanter, si je puis dire, à l'école maternelle, s'est réduit à des petites pastilles, comme on dit aujourd'hui dans un certain univers, à la fin d'un regroupement, à la fin de l'accueil, des choses comme ça. Où sont les activités rythmiques? Où sont les activités d'expression? Parti. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on a des gens, des enseignants d'école maternelle, moins formés à ce type de pratique aujourd'hui? Une question. Est-ce que ça veut dire que c'est tellement peu important à côté du reste qu'on ne prend même plus la peine d'en faire? Rentrer dans les écoles maternelles, il n'y a plus autant de travaux d'élèves exposés, par exemple, en arts plastiques ou autres. Les arts plastiques deviennent des ateliers tournants jamais pilotés par les maîtres, c'est-à-dire comme si c'était de l'occupationnel. C'est quelque chose qui nous semble important parce que, évidemment, on voit bien que pour certains enfants, le contact avec la musique, le contact avec ces activités-là, ils peuvent l'avoir à la maison ou dans des petits ateliers, d'ailleurs, en dehors de la maison, où ils feront de la musique au conservatoire. Mais si on n'en fait pas à l'école, ben pour certains enfants, on n'en fera pas du tout. Les arts plastiques, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. Enfin, le dessin, la peinture, le modelage, tout ce qu'on peut imaginer dans ce domaine-là. Du point de vue de l'expression, dans une période où s'installe pleinement la fonction symbolique chez l'enfant, l'idée même de représentation, de symbolisation, toutes ces activités-là qui sont très fondatrices de la personne. Enfin, je pense que ce que l'on vient de vivre et certains éléments du vivre ensemble ont à voir avec la culture et tous les domaines symboliques. C'est un peu ennuyeux que cette école qui a été pendant longtemps, on va dire, en pointe sur ces activités-là et réduit aussi complètement ses projets dans ce domaine. Troisième point de ce qui fait la réussite scolaire, et c'est quelque chose sur quoi on insiste beaucoup aujourd'hui, c'est l'acquisition d'un certain nombre de compétences psychosociales hein, qui ont à voir aussi bien avec un début de maîtrise de soi, on va le dire comme ça, de maîtrise de ses émotions, de capacité de se synchroniser avec des autres, on pourrait dire aussi de la socialisation, et puis ces compétences qui peuvent s'appeler, ou ces habiletés, ou ces savoir-être qui peuvent s'appeler de la persévérance, de l'attention, dont tous les enseignants nous disent que les enfants manquent beaucoup plus qu'il y a 15 ans, 20 ans, enfin, quand on parle à des enseignants chevronnés aujourd'hui et qu'ils comparent ce qu'ont été les enfants de l'école maternelle il y a longtemps, ils disent ce qui les différencie le plus, c'est leur capacité d'attention. On ne peut plus retenir leur attention très longtemps. Enfin, il y a des choses qui s'éduquent à l'école maternelle et qui sont assez fondamentales pour ce qui viendra après. Donc ça, on peut dire que ça renverrait à ce qu'on peut appeler la réussite scolaire. Il y a une composante qui reste implicite, Si je me pose la question autrement, non pas qu'est-ce que c'est que la réussite scolaire pour tel enfant, mais qu'est-ce que ce serait pour chaque enfant d'avoir eu, je mets des guillemets parce que je reprends une expression d'un programme de 2002, une première expérience scolaire réussie. C'était la première phrase du programme de 2002, l'école maternelle doit fournir aux enfants une première expérience scolaire réussie. C'est pas la même chose que de parler de réussite scolaire pour chaque enfant. Et dans cette première expérience scolaire réussie, pour moi, il y a cette idée de trouver un plaisir, je dirais presque, à fonctionner comme enfant dans un groupe d'enfants, comme futur élève, quoi, à faire fonctionner sa pensée, son intelligence, etc., à construire une motivation pour apprendre, ce que dit la loi d'une certaine façon, trouver le plaisir d'apprendre, mais d'abord le plaisir de chercher. Cette idée qu'on est moteur dans son chemin d'une certaine façon. Il y a des enfants qui sont à l'école maternelle dans cette posture. Et il y en a d'autres qui arrivent à l'école maternelle dans une posture très, très réceptive. Vous savez, ces enfants à qui on dit l'école maternelle va te faire écouter. À tous les sens du terme. Vous voyez ce qu'il y a dans le écouter. Il faudrait que tu y sois sage à l'école maternelle et tu intègres. Et on sait aujourd'hui que encourager l'initiative des très jeunes enfants est très important pour justement cette pulsion vers les apprentissages, vers la recherche de savoir. Pour moi, ce serait ça, au fond, la réussite de l'école maternelle. C'est-à-dire d'avoir rendu chaque enfant à la fois capable d'apprendre au CP, il n'a pas besoin de savoir lire avant d'entrer au CP, capable d'apprendre au CP, mais surtout convaincu qu'il en est capable. Pour moi, il y a cette idée-là. Non pas déjà dans la posture de « j'y arriverai pas, quoi, j'ai des difficultés ». Pour moi, c'est la principale blessure quand je vois certains enfants qui ont déjà intégré, en fin d'école maternelle, une posture d'élève en difficulté. Et du coup, ce repli, parce que c'est ça aussi la pression de la normativité, la pression de l'évaluation. C'est que ça renvoie une image. Ça renvoie très tôt une image. Et il l'intègre très vite. Un certain nombre d'entre vous sont sans doute allés dans différentes fonctions, dans des classes. Bon, moi, ça m'arrive très souvent. Et sans doute pour une sorte de formation ou déformation professionnelle, j'aime bien échanger avec ceux que je sens les plus fragiles ou les plus en difficulté. Chaque fois que je suis dans cette relation d'intérêt avec un enfant, il y en a toujours un autre qui vient me dire, mais en gros, lui, il ne fait que dessiner, que gribouiller, que enfin, lui, c'est un bébé, etc. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'étiquetage a déjà fonctionné, très tôt. C'est l'enjeu pour moi. C'est l'enjeu de la réussite, c'est de retarder au maximum cette confrontation-là, de telle façon qu'au moins ils entrent dans le parcours scolaire convaincus qu'ils peuvent y arriver. Et c'est en ce sens que je dis que la maternelle aurait vraiment réussi comme socle du socle, c'est-à-dire comme la base sur laquelle on va établir ce socle commun, quoi. Elle n'est pas dans le socle commun encore. Elle est préservée de certaines exigences, entre guillemets, de rentabilité, mais sa mission, ça devrait être de réussir cet accrochage cognitif et culturel. C'est-à-dire se donner envie, quoi. Se donner envie, donner une motivation et apporter la conviction aux enfants qu'ils vont être capables. Alors, quelles sont les conditions bénéfiques pour ça ? J'ai essayé d'en lister quelques-unes qui me paraissent parmi les plus importantes. Alors évidemment, la qualité des pratiques pédagogiques, c'est quand même à partir de ça que les enfants apprennent. Hein, et apprennent au sens où ils peuvent apprendre à l'école maternelle. Je ne présuppose pas qu'il y a des leçons. Et cette qualité des pratiques pédagogiques, elle suppose une certaine technicité des gestes professionnels. On en parlait ce matin à propos de la formation des enseignants. Faire classe à l'école maternelle, faire classe avec des petits qui n'ont pas encore le langage, parce que les tout-petits chez nous, un certain nombre ne l'ont pas, le langage. ça n'a rien à voir avec enseignant en CM2. On peut être un maître brillant de CM2 en n'ayant pas, finalement, les gestes professionnels de la maternelle. Donc ça, c'est pour moi quelque chose qui renvoie à la formation. Mais ça suppose aussi la justesse des intentions. Et on voit de ce point de vue-là que le sens de ce qu'est l'école maternelle fait parfois défaut. Je prends ma part de responsabilité là-dedans. C'est sans doute que nous ne savons pas expliquer. Et la justice dans la réalisation. Alors pourquoi je dis cela ? Parce que on est facilement entraîné quand on est enseignant par ceux qui réussissent bien. Et le problème de l'école maternelle, c'est souvent celui-là. C'est-à-dire que on va plutôt suivre ceux qui réussissent bien. Et l'école maternelle est un formidable accélérateur de développement pour ces enfants-là. Mais ceux qui réussissent moins bien n'ont peut-être pas le quantitatif et le qualitatif en matière de stimulation dont ils auraient besoin. C'est compliqué, mais on a vite fait que les écarts se creusent avec ce système-là. Je reviendrai tout à l'heure sur un détail, mais je m'en tiens là pour le moment. Deuxième condition bénéfique, double soutien apporté à l'enfant. Il faut celui de l'école, celui de cette école bienveillante dont parle la loi de 2013. Je disais ce matin, bienveillant ne veut pas dire laxiste, hein, parce qu'on entend aujourd'hui, avec la revalorisation de l'autorité, des propos sur la bienveillance qui tentent à la dévaloriser, hein, et à en faire l'opposé de l'autorité. C'est quelque chose à réfléchir. Mais également le soutien de ses parents. Et je pense que les jeunes enfants ont besoin d'être confortés dans ce que l'école fait avec eux par leurs parents. Et on voit bien que cette alliance éducative, elle est aisée à trouver avec certains milieux. Elle est plus compliquée avec d'autres. Il y a parfois la barrière de la langue, il y a la barrière de certaines représentations. Mais là, je ne désespère pas. Je pense qu'on peut encore faire beaucoup, beaucoup de progrès et qu'il y a des manières d'impliquer les parents dans ce soutien-là. Enfin, on le voit dans certaines écoles, dans des milieux difficiles. Ouvrir la porte des classes, leur montrer ce que c'est, leur montrer comment on ne leur demande pas de faire la classe après la classe, mais comment, en reprenant certaines choses, ils peuvent largement renforcer ce que l'école apporte. La vigilance au moment des transitions. On sait que ces moments de transition d'un milieu à l'autre, alors c'est toutes les transitions, hein. C'est la transition pour l'élève qui va rentrer au cours préparatoire, mais c'est la transition aussi pour l'enfant d'école maternelle entre les différents moments. Vous savez qu'un des moments qui est le plus anxiogène pour un enfant petit, c'est la récréation. C'est pas la classe. Les moments dans lesquels les enfants sont très livrés à eux-mêmes, où ils ne sentent pas qu'il y a une vigilance très, très, très proche de l'adulte, sont des moments qui les inquiètent beaucoup. Je dis ça parce que dans le périéducatif, quelquefois, ou dans les garderies, on a des enfants qui sont en état de tension très, très forte. Mais c'est le moment aussi où l'enfant entre à l'école maternelle, hein, selon ce qu'il a connu avant. Garde en dehors de la famille ou pas, accueil dans des milieux collectifs ou pas, comment se fait finalement la séparation avec le milieu familial. Certains enfants ont du mal à s'adapter à l'école et sont en souffrance pendant un certain temps à cause de cela. Ces moments de séparation ratés, si je puis dire, les spécialistes de neurosciences nous disent aujourd'hui qu'ils peuvent laisser des traces assez sensibles et assez durables. Dernier point, ce qui va concourir à la réussite, eh bien, c'est l'appui sur toutes les ressources qui peuvent assurer un maximum de stimulation aux enfants, sans devenir des sources de harcèlement et de mal-être. Alors, Je dis cela parce que dans un certain nombre de milieux, on voit plutôt des enfants suroccupés que des enfants en attente de... Enfin, je dis suroccupés, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont forcément toujours justement stimulés, mais suroccupés. Il y a des emplois du temps d'enfants qui font frémir quand même. Hein. Et les discours qui ont accompagné la réforme des rythmes scolaires ont pu donner l'impression à des parents ou à des responsables du périéducatif qu'il fallait beaucoup de choses, qu'il fallait offrir beaucoup d'activités aux enfants. Et on voit bien que pour les jeunes enfants, faudrait leur offrir d'abord du repos. On va en parler. Alors, plutôt que de parler directement du périéducatif, je préférerais regarder cette question de l'optimisation du temps de l'enfant. Et je voudrais repartir de cette idée que les avantages dont disposent au début de leur parcours scolaire les enfants des milieux favorisés tiennent beaucoup au fait que dans ces milieux-là, tout moment est un temps éducatif, de manière formelle ou informelle. C'est-à-dire que les parents n'ont pas l'intention d'apprendre du langage, d'enseigner aux enfants, mais la manière dont s'organise, par exemple, le bain, la manière dont on s'organise, c'est pas pour réfléchir à ce qu'on va mettre aujourd'hui pour aller à l'école, compte tenu du temps qu'il fait, le langage qu'on met autour de ça, les relations que l'on met autour de ça. C'est pas enseigner du langage, mais si, pourtant, c'est enseigner du langage. C'est pas une leçon de langage. C'est du langage intégré à la vie de tous les jours et c'est d'autant plus efficace. Et je crois qu'avec le... Alors, je mettais là le langage, l'orientation donnée à certaines activités. Pourquoi on choisit certaines activités plutôt que d'autres? Comment on les commande quand on fait certaines choses avec les enfants? Le choix de certains loisirs, le spectacle que donnent les parents de leur manière de faire en relation avec la culture de l'écrit. Quand est-ce qu'on écrit? Quand est-ce qu'on lit? Est-ce qu'on manifeste qu'on y prend du plaisir ou pas? Je dis souvent, quand je travaille avec des enseignants, regardez le discrédit autour de l'écrit et de l'écriture qui pèse dans certaines familles. Vous savez, ces familles qui disent « encore des papiers à remplir ». Il y a des papiers, il faut écrire, c'est comme si c'était un harcèlement. C'est mauvais, les papiers à remplir. Pour d'autres, ça va de soi, quoi, au fond. Mais rien que ça, ça ne vous met pas dans les mêmes dispositions, quand même, hein. Et je ne parle pas de tout un tas d'autres choses. Un sociolinguiste dans les années 70, Basil Bernstein, évoquait ce qu'il appelait les avantages des enfants dans les familles relationnelles. Il appelait ça des familles relationnelles, les familles où on raconte des histoires, où on lit des livres, où on explique aux enfants le pourquoi oui, pourquoi non, pourquoi pas aujourd'hui, etc. Où on explique les familles... voilà, où on en explique, où l'on argumente, les familles dans lesquelles on fait des jeux de mots avec les enfants. Il n'y a rien de tel que les jeux de mots pour voir avec quelle est l'aisance des enfants avec le langage. Ces apprentissages que l'on nomme quelquefois implicites, informels, incidents, indirects, on les appelle aussi adaptatifs. C'est cette idée que dans tout milieu, dans toute situation, l'enfant apprend quelque chose simplement parce qu'il est en situation de s'adapter avec son environnement, de s'adapter dans son environnement. Je ne dis pas qu'il y a des enfants qui n'apprennent rien, je dis qu'ils n'apprennent pas la même chose. Et ce dont ils n'apprennent pas la même chose, il y a tout un écart, parce qu'il y a ceux qui apprennent des choses complètement en phase avec ce que va leur apporter ou attendre l'école, et ceux qui apprennent complètement autre chose. Pas inutile, sans doute, hein, dans la débrouillardise, dans tout un tas de choses, hein, mais ce n'est pas forcément scolairement payant. Et pour les enfants qui n'ont pas ces chances-là, d'avoir ce capital d'apprentissage finalement bien congruent avec ce qui va permettre de réussir scolaire, il faut trouver toutes les conditions d'accroître à l'extérieur de la famille ces temps favorables, quoi, où on va pouvoir faire ces apprentissages-là. Et ça me permet de déboucher sur ma dernière diapo pour qu'on ait le temps vraiment d'échanger. Quels sont les points de vigilance, donc, si on veut être un peu dans cette logique-là? Le premier, pour moi, c'est respecter tous les besoins des enfants. Quand on dit les enfants ont besoin de stimulation, oui, ils ont besoin de stimulation cognitive, esthétique, langagière, linguistique, etc. Mais ils ont besoin aussi de repli. Ce que j'appelle le repli, c'est des moments, pardonnez-moi l'expression, où on les laisse tranquilles. Où selon ce qu'ils sont, ils vont pouvoir s'asseoir, mettre le pouce dans la bouche, rêvasser, regarder librement des livres, à partir d'un certain âge, faire des confidences à leurs camarades, parce qu'ils sont les petites conférences privées des petites filles, c'est quelque chose. Besoin de repos pour certains. Il y a des enfants qui sont dans un surmenage quand même. Quand on regarde les conditions de vie le soir, l'heure à laquelle ils se couchent, l'heure à laquelle ils se lèvent, et c'est pas c'est pas dire que des parents sont négligents, mais je pense à ces enfants. Enfin, on voit ça dans certains milieux défavorisés, des enfants que leur maman élève toute seule. Et quand ces femmes-là sont, par exemple, employées de certaines entreprises de nettoyage, enfin, moi, je travaille beaucoup cette année dans l'Académie de Créteil, avec des travaux, une activité professionnelle le soir essentiellement. Donc, elles rentrent tard, certaines femmes, enfin, en banlieue, ou le matin. Donc, au fond, les gamins se couchent tard, les gamins se lèvent très tôt le matin. Et qu'il y a des enfants qui sont dans des garderies, enfin certains d'entre vous le savent même mieux que moi, avant 7h30 le matin, et qui n'en partent pas avant 18h30, 19h le soir. Et évidemment, ces enfants-là, il y a des cycles de fatigue et de creux dans la journée, donc ils ont besoin de pouvoir se reposer. Et les enfants ont besoin aussi de jeux. Alors, de jeux éducatifs, certes, mais de jeux libres, de jeux d'inventer, quoi. Pas jouer avec des jeux... Enfin, si, les jeux à règles sont intéressants, mais jouer librement, jouer à du faire-semblant, jouer à des petites voitures, jouer avec autre chose. Ils n'ont sans doute pas leur content de jeu. Un certain nombre de psychologues aujourd'hui qui insistent beaucoup sur la relation, justement, l'importance de développer par le jeu un imaginaire de l'enfant, qu'il invente son propre chemin avec des petits objets. Enfin, on parle de jeux de rôle, on parle de jeux de mise en scène. Les ludothécaires ont beaucoup étudié cela. Je crois que le jeu autour de l'école est quelque chose d'important. Sans compter que si on regarde les jeux à règles, on peut avoir de très belles situations de stimulation langagière et linguistique en jouant avec des enfants. Une ludothèque de Lunéville a fait un très beau travail avec une école maternelle et une chercheuse sur le langage oral, hein, qui s'appelle Emmanuelle Canu. Ils ont fait un très, très beau travail sur le langage, enfin, jouer pour parler, parler pour jouer, en associant dans ce travail-là l'école, les ludothécaires, et en impliquant des parents invités à venir aussi dans la classe ou à la ludothèque dans ces moments de jeu avec les enfants. Et moi, les vidéos que j'en ai vues sont très, très intéressantes. C'est-à-dire des enfants qui apprennent certains jeux et qui, d'une certaine façon, ensuite, apprennent à jouer aux parents. Donc il faut parler, il faut expliquer les règles et ça peut être tout à fait riche. En tout cas, cette idée qu'il ne faut pas, me semble-t-il, vouloir saturer le temps de l'enfant sous prétexte de le rendre éducatif. C'est pas forcément les activités très encadrées, les activités qui vont faire riche un peu à l'extérieur, qui sont les plus intéressantes pour l'enfant. Deuxièmement, agir avec les enfants en impliquant autant que possible les parents, en tout cas en ne les disqualifiant jamais. Il me semble que ce que j'ai vu, par exemple, de plus intéressant dans les dernières années de l'aide personnalisée aux élèves, c'est ces situations à l'école maternelle dans lesquelles on associait les parents à l'aide personnalisée. Simplement voir les activités qu'on peut faire autour de livres de littérature de jeunesse, voir les activités qu'on peut faire autour de jeux. Cette idée qu'au fond, on va apporter des stimulations aux enfants, mais en présence de leurs parents, avec l'espoir qu'il en sera fait quelque chose à l'extérieur. Tous les parents veulent le bien de leurs enfants. Et les impliquer dans cette spirale-là, c'est très important. Et dernier point, je pense, mais c'est peut-être mon côté réaliste de vieux routier, de ces questions-là, ou de vieille routière, si c'est pas très joli, mais enfin, de ces questions-là, je crois que il faut travailler ensemble, mais sans idéaliser complètement ces relations de travail. Je veux dire, c'est très complexe quand même. Les relations entre parents et professionnels divers, que ce soit des éducateurs, des animateurs, des enseignants, je pense que on aurait besoin sans doute d'observateurs, de chercheurs accompagnateurs pour nous faire progresser dans ce domaine-là. C'est-à-dire comment finalement on arrive à travailler en respectant, j'ai repris là des expressions que j'emprunte à Pascal Garnier, hein, qui est maître de conférence à Paris. Oui, c'est ça, mais je ne sais jamais le numéro. Et Pascal parle de ses... Elle a beaucoup travaillé sur ses partenariats et elle évoque les questions de logique d'expertise et de ces asymétries entre les professionnels, les experts et les parents. Oui, il y a asymétrie. Le problème, c'est comment on le règle. On voit aujourd'hui, et on le voit en particulier, moi, enfin, je le vois avec les jeunes enseignants, les enseignants débutants, qui se trouvent parfois pris sous la coupe de parents qui prétendent leur apprendre leur métier à certains égards, quoi. Et on voit bien comment ce type de relation, quand ça part comme ça, ça tourne mal en général, parce que du coup, les gens se raidissent et se retire quoi, de l'échange. Mais il y a quelque chose de compliqué. Sans doute, ça veut dire aussi que nous ne travaillons pas assez dans la formation des enseignants sur ce que c'est que parler, collaborer avec d'autres experts et avec ces, si je puis dire, ces experts de leur enfant que sont les parents. Parce que c'est bien comme ça qu'ils se positionnent. C'est-à-dire que moi, je connais peut-être pas votre métier, mais je connais ce qui est bien pour mon petit, quoi, au fond. Et ça, c'est quelque chose de compliqué. La logique civique, avec les droits et les obligations réciproques. Et on voit aussi que, oui, on a des interlocuteurs extérieurs qui finissent par connaître mieux les règles de l'école maternelle que certains professionnels, ce qui n'est pas sans nous déranger. Et enfin, ce qu'elle appelle cette logique domestique, quoi, et cette situation dans laquelle nous sommes, de partager finalement la socialisation de l'enfant et ses apprentissages informels dans et autour de l'école. Ce sont des relations souvent compliquées, et je pense que la dernière période a pu, d'une certaine façon, attiser des tensions, la dernière période, c'est-à-dire la mise en place des nouveaux rythmes. Ceci étant, il me semble que ces tensions retombent assez vite. Alors, je suis peut-être un peu naïve, mais On voit qu'actuellement s'installent des... C'est comme si on s'était un peu apprivoisé, quoi. C'est d'ailleurs très, très étonnant de voir comment ça se passe, mais j'ose pas, j'ose un peu, j'avance un petit peu. Et c'est plutôt, il me semble, en train de se décrisper, et ça nous permet d'envisager des collaborations peut-être un peu plus fructueuses. En tout cas, nous ne ferons pas le bien des enfants en cultivant nos inimitiés, si je puis dire. Donc, on est condamné à s'entendre.
Merci. On a donc une demi-heure pour les échanges. Et je suppose que l'intervention de Viviane Bouys a suscité beaucoup de retours et de confrontations aussi avec vos expériences, puisque c'est un appel.
Oui, tout à fait.
Qui a été fait de ce point
et,
de vue.
Et même volontiers à des objections, à des oppositions, parce que je pense que c'est ressenti divers qu'on peut avancer.
Merci. C'est juste une réaction sur deux points qui sont, d'après moi, assez liés. Et je vais essayer de le dire simplement. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention, ce propos, et je suis tout à fait d'accord avec ce par quoi vous avez commencé, à savoir qu'on ne peut pas dissocier la réussite dite cognitive, de la motricité, de forme culturelle, etc. C'est extrêmement important de rappeler ça. Mais il y a quelque chose que j'ai entendu dans votre propos qui est à la fois central et périphérique. C'est curieux que ça puisse être à la fois central et périphérique. C'est quand vous me parlez du socle, la maternelle, le socle du socle, et vous aviez écrit, je crois, sur le PowerPoint, l'école maternelle doit permettre un accrochage cognitif et culturel réussi. Voilà. Ce qui me semble central et périphérique, c'est cette conception du temps qui est engagée dans votre propos, où on fait comme si tout, il y a une base qui devrait se jouer à la maternelle, et puis après le reste suivrait un peu linéairement comme ça. Donc c'est une temporalité qui, je pense, est liée à une temporalité de l'institution scolaire. Et du coup, le risque, je vous dis ça parce que ça, on l'a retrouvé dans plusieurs pays autour de tout ce qu'on appelait les politiques de compensation, notamment aux États-Unis dès les années 1960, etc., où ces politiques se sont beaucoup basées sur la préscolarisation en disant mais il faut d'abord qu'on prépare ces enfants, on va bien les préparer, et puis après, ça ira tout seul, et on ne questionne plus ce qui se fait après. C'est-à-dire tout ce qu'on a fait ce matin, c'est discuter le fonctionnement scolaire, c'est un peu évacué, comme si on avait bien préparé les enfants, et après, ça roulait. Je vous signale qu'en Angleterre, il y a un programme qui s'appelle Sure Start, assurer un bon départ. Un collègue, Marc Demeuse, nous dit que c'est un modèle balistique. On les lance bien, puis après, ça part et ça marche. Bon, c'est quand même une conception de l'apprentissage qui pose problème parce que ça risque un peu de, en jargon sociologique, de naturaliser tout le reste de l'institution scolaire.
Non, ça n'est pas du tout la mienne. Hein. Vous avez entendu ça, d'accord, peut-être. Ça n'est pas du tout mon point de vue. Hein.
Voilà, j'entendais que ce n'était pas votre point de vue. Et en même temps, je me disais, on peut quand même entendre ça. Le deuxième point est tout à fait lié. C'est quand vous parliez des avantages des enfants de milieux favorisés sur la diapo, qui renvoyait avant tout au fait que pour eux, tout est un temps éducatif. Vous voyez où je veux en venir, puisque c'est un peu la même idée. Je me dis, mais est-ce qu'il y a des milieux dans lesquels il n'y a pas un temps éducatif, ou est-ce que c'est la forme même de ce que l'on entend par éducatif qui est en jeu dans cette question-là? Donc deux choses l'une. Soit l'éducation est un... L'apprentissage est un phénomène relationnel, un rapport entre... Soit c'est quelque chose qui fonctionne uniquement chez certains milieux, et au cas où, il faudrait que toutes les familles donnent le bain de la même manière à leurs enfants, et c'est pareil, la réussite scolaire s'opérerait par la suite. Puisque vous citiez Basile Merchan a une très belle expression dans un texte très ancien où il nous disait, en gros, quand il critiquait les pédagogies de compensation, justement, le modèle du handicap socioculturel à l'époque, il nous disait... Il résumait ça comme ça, il disait « Ah, s'ils étaient comme nous, si tous les parents étaient comme nous, tout irait bien par la suite. » Donc voilà, j'ai un peu réagis, non pas sur le propos fondamental, sur la manière de décrire et de penser la réussite des activités en maternelle, mais plutôt sur, dans la conception dans laquelle il s'insère, que je vois souvent chez des collègues qui travaillent sur la préscolarisation, au plus on travaille sur les petits-enfants, au plus on pense que tout se joue là et qu'il y aurait quelque chose de déterminant qui se joue là. Et pour la suite, peu importe ce qui se passe par la suite, peu importe ce qu'on fait dans l'institution scolaire, et qui hiérarchise un peu et la conception des familles que l'on se donne, et la conception de l'apprentissage, etc. Voilà. C'est un peu ça ce sur quoi je voulais réagir.
Alors, je veux bien répondre là parce que...
Excusez-moi, on prend peut-être plusieurs...
Peut-être pas parce que ça, c'est un gros morceau quand même. Hein. et nous n'allons pas nous en tirer comme ça. Oui, je pense que c'est déterminant. Et en même temps, je pense que tout ne se joue pas là. Mais pour moi, il y a les deux. Pour moi, il y a clairement les deux. Dans une société, on va le dire comme ça, où finalement, tous les enfants, ou presque, passent par l'école maternelle, on a aujourd'hui construit des attentes très particulières sur cette école. Je ne dis pas que c'est l'idéal. Je dis que c'est aujourd'hui. Et que, en particulier, le début de la scolarité obligatoire, le début de l'école élémentaire, est saturé d'exigences par rapport à l'école maternelle. Tel point d'ailleurs que certains maîtres d'école maternelle demandent aux cours préparatoires comment il faut qu'on prépare les élèves pour aller dans leur classe. Dire que, à la fois, on voit bien que les enfants qu'on laisserait à leur croissance spontanée, si je puis dire, auraient peut-être moins de chances quand même que quand ils sont passés par l'école maternelle. Mais en même temps, je pense que tout ne se joue pas là, mais tout se rejoue à tout moment. Moi, je fais partie de ceux qui disent, au fond, vous savez, vous parlez de l'école maternelle, mais j'entends parfois, apprenons-leur bien à lire et à écrire à l'école élémentaire, puis ensuite, le collège, le lycée, boulevard tout droit vers la terminale générale, quoi. Non, je pense que, à tout moment, il y a des obstacles sur le chemin de l'enfant, et quelles que soient les bonnes dispositions, entre guillemets, dans lesquelles ils sont avant le début des apprentissages obligatoires, ils sont tous en but à enfin, il y a matière à se questionner sur ce qui se passera après, même très fortement quand même. Alors, là où je pense que vous avez raison, c'est sur la formulation de ma diapositive sur le « tout est un temps éducatif ». Il faut que je la sortisse d'un qualificatif. J'ai bien dit, tous les enfants font des apprentissages dans leur milieu. Ils font tous des apprentissages adaptatifs. C'est la nature même des apprentissages adaptatifs. Le problème, c'est qu'il y en a qui sont très payants par rapport à l'école et d'autres qui n'ont pas la même rentabilité, si je puis dire. Oui, oui. Je dis parfois, comptez ce que représente l'acculturation à des histoires, à des textes, que vaut pour certains enfants le fait d'entendre leurs parents raconter ou lire des histoires. Allez, vous mettez simplement 5 minutes, 4 jours par semaine, entre 1 an et 3 ans. Vous comptez ce que ça fait ? Et vous voyez le temps qu'il va falloir à l'école maternelle pour en faire autant avec les enfants qui n'en ont jamais entendu. Rien que ça, c'est déjà très impressionnant. Et on voit bien que ça fait des effets, tout ça, quoi. Donc, effectivement, peut-être que dans la hâte à le dire, ou peut-être que dans mon incompétence, je ne l'ai pas dit correctement. Je pense que vous avez raison. C'est éducatif pour tout le monde, mais ce n'est pas éducatif de la même façon. Et quand on sait le tribunal qu'est l'école pour les enfants, c'est un tribunal qui fait mal, hein.
Un point qui m'interroge, dans la commune où je suis, il y a des effectifs très élevés en maternelle. C'est-à-dire qu'on arrive à 30 élèves en maternelle, mais sans doute qu'ailleurs, on peut arriver à plus. Voilà, sauf sur les dispositifs liés à la ZEP. Donc ça me pose beaucoup de questions quand même. Sur une logique, sur un territoire d'accueil d'enfants de moins de 3 ans, avec une classe expérimentale certes, mais une seule classe. Voilà. Ça interpelle un projet de territoire, hein, ce que vous dites. Vous parliez d'offrir des temps de repos sur... Pour moi, c'est sur tous les temps, y compris effectivement le temps scolaire. Mais comment, quelle coordination il y a autour de l'ensemble de ces éléments en tant que rythme, parce que finalement on a bien mis en place les activités, etc., liées au nouveau rythme scolaire, déterminer des nouveaux rythmes scolaires, mais on n'a pas reparlé du rythme de l'enfant dans cette commune, cette école, etc. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas le faire encore. Donc voilà, ça m'interroge. Et puis, voilà, c'était principalement ça.
Plusieurs questions.
Dans le même fil, une interrogation sur l'organisation également de l'école maternelle. Sur la ville de Perpignan, où je suis directeur territorial, nous sommes posés des questions dans le cadre de l'organisation des rythmes scolaires. Ça va ? Concernant l'organisation des rythmes scolaires à une école maternelle. C'est pour ça que vraiment ça nous questionne très fort. Dans l'organisation des rythmes scolaires, suivant ce qui avait été dit, c'est-à-dire faire des nappes en fin d'après-midi ou dans certaines villes, deux nappes de 1h30, 1h30, l'école maternelle pour les tout-petits se retrouve coupé en deux, et bien souvent pour des enfants qui pratiquent la sieste de 2h à 3h30, ou je ne sais, il n'y a plus de plus-value pédagogique. C'est nous qui devons récupérer les villes, ces enfants, et on se pose la question de savoir la grosse responsabilité qui nous est confiée. Alors peut-être qu'on peut compenser, parce que je ne suis pas bien sûr une spécialiste de la pédagogie scolaire, mais c'est vrai, c'est quelque chose quand même qui nous interpelle fortement. Et donc c'est bien peut-être auprès de vous de voir qu'est-ce qu'on pourrait en penser, parce qu'évidemment ça rentre fortement également dans les propositions que nous, collectivités, nous pouvons faire. Bon, nous nous posons, vous vous doutez bien, comme beaucoup de collectivités, le rythme de l'enfant maternel. Déjà, le rythme de l'enfant en élémentaire, en TAP, qu'est-ce qu'on propose, quelles activités. Mais là, on est vraiment préoccupés. On était en réunion hier avec des directeurs d'école et une inspectrice. On se pose vraiment, et on veut créer un groupe de travail de réflexion sur qu'est-ce qu'on propose aux enfants maternels, et justement, quel repos, quelle activité, qu'est-ce qu'on exprime à l'extérieur pour les parents, pour les enseignants qui sont très attentifs à ce qui se fait. Voilà, donc un fort questionnement à ce niveau-là.
Oui, je vais faire très court. Vous avez soulevé quelque chose qui me semble essentiel dans votre propos. Vous avez bien sûr parlé, je vais dire, la bien-traitance de l'école, mais aussi du soutien à la parentalité, de la place des parents, de leur légitimité à faire avec leurs enfants, parce qu'ils restent les premiers éducateurs de nos enfants. Et j'ai presque envie de dire que ça nous oblige à nous, techniciens, une posture d'humilité. Parce que quand on est un accoucheur, on oublie parfois que le travail le plus difficile est accompli par la mère et par l'enfant. Donc comment est-ce qu'on peut accompagner ces parents-là à l'éducation ?
Des questions vraiment très différentes. Sur les rythmes, sur les horaires, sur les rythmes interrogés plus globalement, enfin, vous l'avez dit comme ça, sur les effectifs d'abord. Non, je voudrais répondre quand même parce que... Enfin, répondre, je ne peux même pas répondre. Je veux dire, l'éducation nationale répartit les moyens qu'on lui donne. Alors ensuite, on peut discuter sur les priorités qu'on se donne localement, sur, en fonction des moyens que l'on a dans une école, la manière dont on remplit les classes, puisque ça, ce n'est pas prédéterminé par l'administration. Il y a eu pendant très longtemps la conviction qu'il fallait, à la limite, alléger les classes des grands et mettre beaucoup plus d'effectifs dans les classes de petits, avec cette idée qui venait plus ou moins régulièrement. Enfin, il y a plusieurs arguments. Je pense que ça subsiste encore, parce qu'avec le même nombre d'emplois, on peut faire des choses très différentes selon les écoles. Donc ça mérite d'être... examiné de près. C'est-à-dire qu'il y a le qualitatif une fois qu'on a les moyens, et puis il y a les moyens que l'on a. et je ne sais pas dans quel secteur vous êtes, mais actuellement, il est évident que dans certaines zones en expansion démographique, les choses sont un peu tendues. À partir de 2016, les effectifs baissent en primaire, je vous le signale, donc on devrait retrouver quelque chose d'un peu plus simple. Des rythmes à interroger plus globalement, parce que vos deux questions, en fait, se rejoignent si on regarde bien les choses. Sur ce que vous dites, madame, à savoir les petits en particulier, ils dorment pendant la classe et ils travaillent pendant les nappes. On va dire les choses. Tels qu'ils sont proposés localement, parce qu'il n'y a pas de schéma définitif quand même. Oui, mais ça, c'est un choix. C'est un choix, ça n'est... Oui, c'est un choix, ça n'est pas une obligation. Donc, on voit bien qu'un certain nombre de... mais c'est vraiment très minoritaire. Moi, je vois les emplois du temps que j'ai analysés, puisque j'ai analysé des emplois du temps de maternelle. Le nombre de situations dans lesquelles on a, par exemple, allongé la pause méridienne pour permettre d'inclure le repos des enfants dans ce moment-là et faire en sorte qu'ils aient une heure et demie, voire un petit peu plus, après, avec l'enseignant, ce nombre d'occurrences, en tout cas, est très minoritaire dans les emplois du temps que j'ai analysés. Mais il existe. Alors, il est vrai que, dans la majorité des cas, on se trouve devant cette situation. Moi, je pense que ça mérite d'être réinterrogé. Et il faut savoir pourquoi on n'a pas fait autrement. Alors, est-ce que c'est une opposition des enseignants ? Est-ce que c'est de la disponibilité d'eux ? Bon, on voit bien que pour les enseignants, disposer d'un grand creux, si je puis dire, à midi pour certains d'entre eux et terminer plus tard le soir, c'est moins avantageux que l'inverse, quoi. C'est bien. Oui. Alors, moi, j'ai vu des cas où on a, si je puis dire, allongé la pause méridienne sur la maternelle et en élémentaire, on avait les nappes à ce moment-là. Et inversement, si vous voulez, c'est-à-dire quand les gamins de maternelle, vous voyez, reprennent la classe, voilà. Mais ça pose à ce moment-là d'autres problèmes qui sont parfois des problèmes de formation pour les enseignants, puisqu'il y a aussi des moments de formation, des moments de réunion, etc. Et on voit que dans tous les cas, on a l'impression d'avoir trouvé une bonne réponse à certaines demandes, en particulier celles des parents, et pas à d'autres. Et ça percute autre chose. Moi, je pense que il va falloir faire des retours d'expérience, quoi, et voir ce que ça donne dans un cas ou dans l'autre. Alors, je vais vous donner une hypothèse, pour moi, de travail, parce que j'ai vu quelque chose de particulier en explorant cet univers des emplois du temps. C'est que, depuis des années, on avait demandé que les enseignants qui ont des élèves de petite section essentiellement, pendant la sieste de leurs élèves, puissent prendre des groupes d'enfants des autres classes, du décloisonnement, vous voyez, des choses comme cela. Or, quand on regarde les emplois du temps, quand on regarde en extériorité les emplois du temps, ce qui est très intéressant, c'est que sur cette première partie de l'après-midi, on n'a plus l'emploi du temps de la classe, mais on a l'emploi du temps du maître. Et que dans beaucoup de cas, l'enseignant de petite section a un groupe de moyens en règle générale sur les apprentissages numériques et un groupe de grands en règle générale sur la conscience phonologique, parce que c'est très bien réglé comme ça. Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui renvoie à une ergonomie du travail collectif. On a mis en place dans les dernières années des situations de travail collectif dans lesquelles le maître de petite section est un appoint pour ses collègues l'après-midi et défaire ses arrangements a peut-être été jugé coûteux par les équipes pédagogiques. Je ne dis pas que c'est ma réponse. Je dis qu'aujourd'hui, en fonction de ce que j'ai vu sur papier, c'est mon hypothèse que je vais vérifier dans les entretiens que l'on va mener dans la deuxième partie. Parce que c'est tellement systématique que je me dis que ça a une fonction. C'est-à-dire, le fait que les petits dorment à un certain moment, ça permet autre chose dans la vie de l'école. Mais du coup, Oui.
S'il y a le NAP après.
Oui, oui.
Voilà, c'est ce que j'ai posé comme question. C'est, ben,
s'il y a le NAP après. Mais vous pouvez mettre du jeu, mettez du jeu, mettez de la lecture, de l'offre de lecture, on peut imaginer tout un tas de choses. Ce que vous ferez de toute façon sera du plus. Non, mais ce sera du plus, sous réserve que vous n'en ayez pas 36 avec un adulte. Hein.
Merci, vous aviez demandé la parole.
Deux questions. Dans votre propos, vous avez tout à l'heure évoqué que la motricité existait toujours, mais les activités d'expression artistique, d'expression et artistique ont
décliné, clairement.
Voilà. Mais du coup, elles sont remplacées par quoi ? Ça, c'est la première question. Et puis une deuxième question, on a beaucoup parlé de l'enseignant, des partenaires, et à aucun moment il n'a été évoqué la question des ATSEM, alors que les ATSEM sont des partenaires incontournables et quotidiens dans la vie d'une classe. Et comment tout ça s'articule, et sachant que le rôle des ATSEM est aussi bigrement remis en cause ou interrogé avec la mise en place d'étapes notamment. Merci.
Oui, bonjour, moi je m'excuse, je n'étais pas là ce matin, je suis directrice d'école maternelle et je suis aussi militante de l'éducation populaire, et donc je suis très intéressée par la réforme des rites, mais très intéressée aussi par le fait d'accueillir dans mon école un partenaire qui organise donc des activités, malheureusement un peu le vendredi après-midi, mais en tout cas, voilà, c'est un sujet vraiment qui m'intéresse. Et la question que je me pose, c'est à moyen terme, quand les tensions se seront apaisées, qu'on en apprendra enfin à travailler ensemble, jusqu'à quel point est-ce que nous, enseignants, pouvons-nous nous intéresser aux apprentissages adaptatifs qui se font par les enfants dans le cadre des activités périscolaires ? Puisque bien sûr, l'école, moi je suis convaincue qu'elle n'a pas le monopole de l'apprentissage. Mais finalement, qu'est-ce qui différencie un enfant d'un élève ? On ne peut pas dire que l'élève, c'est celui qui est en posture d'apprendre, puisque le jeune enfant, il apprend tout le temps. Donc, je ne sais pas. L'élève, c'est celui qui se met en posture organisée, réfléchie et évaluée, structurée, d'apprendre. Donc, moi, enseignante, je m'intéresse déjà beaucoup aux apprentissages adaptatifs faits dans les familles. Je valorise la culture familiale, je travaille avec les parents pour essayer de comprendre ce qui s'apprend dans les familles et de le faire prendre en compte dans la culture scolaire. Donc, jusqu'où je dois aller ? Aujourd'hui, j'essaye d'avoir, de la confiance réciproque, de la bienveillance vis-à-vis des partenaires qui sont dans mon école. Mais je ne sais pas jusqu'où il serait intéressant d'aller pour prendre en compte ce que les enfants apprennent dans ces temps-là.
Je sais pas, il marche ? Bonjour. Donc, je suis enseignante en maternelle, directrice d'une école maternelle également. Je veux rebondir sur un point qui, moi, m'apparaît important en tant qu'enseignante, c'est quand vous dites qu'à certains moments, il faut laisser l'enfant tranquille dans la journée. Et je trouve que c'est très important. Alors, c'est qu'un exemple, mais quand dans nos écoles maternelles, on a le temps d'accueil avec les parents, et c'est après, je viendrai sur le lien avec les parents, qui emmènent l'enfant à l'école, qui peuvent rester un court moment dans la classe. Moi, c'est un temps notamment où je laisse mes élèves tranquilles, où je garde ce temps que pour les parents et pour l'enfant qui a des questions. Parce que je sais qu'après, il y a plus de contraintes pour lui. J'ai été inspectée il n'y a pas longtemps. Mon inspectrice m'a fait remarquer, j'ai des grands et des tout-petits, que les parents, faut qu'ils partent là maintenant de grande section à 8h30. L'an prochain, c'est l'école élémentaire, voilà. Et moi, je me dis maintenant, après presque 40 ans de carrière, que c'est peut-être qu'en élémentaire, il faudrait peut-être se dire, nous on le faisait en tant qu'institut de CP, que peut-être pour ce lien, pour accompagner aussi ce passage pour l'enfant, pour les parents, ça bousculerait peut-être des choses, mais pourquoi pas laisser le temps aux parents, de la même façon, d'arriver à l'école avec leur enfant le matin. Ensuite, une autre remarque. En ayant été instite de CP très longtemps, je me suis rendu compte en revenant en maternelle qu'il y avait eu une primarisation de la maternelle. C'est-à-dire qu'on demande nos collègues de l'élémentaire, nous, avec lesquels on travaille, s'attendre quelque part que l'enfant sache déjà beaucoup de choses. Et moi, je continue à penser que ce n'est pas le rôle de l'école maternelle, qu'il ne faut surtout pas... En plus, on nous demande de les évaluer, donc évaluer les enfants sur des compétences qu'ils n'ont pas à acquérir en maternelle. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout. Et le positif, je trouve, des nouveaux textes sur lesquels on a réfléchi en octobre, c'est qu'apparemment, au niveau ministériel, on redonne à la maternelle une place qu'elle était en train de perdre. On redonne la place au jeu. Et ça m'apparaît pour l'avenir important pour les enfants.
Rapidement, parce qu'il y a des questions qui mériteraient de très longs développements. Les activités artistiques, quoi à la place ? Des activités plus liées à la question du langage autour des livres, autour des lettres, autour de l'écriture, autour de la numération. Enfin, on voit que ces deux domaines-là, on va dire langage, oral, écrit et préparation, ont pris de l'importance. Il y a un autre argument qui est souvent avancé pour la diminution des activités plutôt plastiques. Ça ne joue pas sur tout ce qui est musique et chant. Dans beaucoup d'écoles, et ça rejoint, je crois, une de votre deuxième question, du temps d'ATSEM qui s'est réduit. Et des gens qui vous disent, avant, je pouvais faire des arts plastiques à n'importe quel moment de la journée, ça posait jamais question, ça serait nettoyé le soir, etc. Maintenant, j'ai plus qu'un créneau le matin parce que la TSEM, elle repasse pas après tel moment. Enfin, c'est vrai, c'est faux, je ne sais pas. En tout cas, j'ai entendu des propos d'ATSEM sur ces cochonneries dans les classes et je... même pire que ça, qui me laisse penser quand même que il y a une réduction de temps d'ATSEM dans un grand nombre d'écoles. Alors, ce ne sont peut-être pas vos classes, surtout vous qui êtes là aujourd'hui, c'est peut-être les plus impliqués, donc c'est peut-être pas chez vous que ça se retrouve, mais on a ça. Les ATSEM sont des partenaires incontournables, oui. J'en ai pas parlé, je pouvais pas parler de tout. Puis vous avez un grand spécialiste dans la salle, donc il pourrait en parler nettement mieux que moi. C'est une question qui, pour moi, se pose, que l'évolution de ce qui est attendu des ATSEM. Hein, on voit bien que dans certaines écoles, on a encore le schéma ancien où elles s'occupe de l'enfant d'un point de vue éducatif, des soins, de l'hygiène. Elle s'occupe du ménage de la classe et de l'entretien de la classe. Et elle intervient aussi sur des temps de classe. On voit aussi que d'autres ont fait d'autres choix, hein, où l'ATSEM n'est plus du tout sur ces temps d'entretien et devient un éducateur, quoi. Enfin, la part de la fonction éducative de l'ATSEM est en train de croître à de nombreux endroits. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va changer l'équilibre du binôme enseignant-ATSEM à brève échéance dans certaines villes. On sent vraiment une professionnalisation des ATSEM, hein, et avec des gens qui ont un potentiel réel, dont on voit bien qu'elles pourraient faire autre chose vraisemblablement. Enfin, moi, j'en vois conduire des jeux avec des enfants avec une pertinence éducative remarquable. Hein, remarquable. Donc, ça interroge. Hein. Ça interroge, je ne dis pas au sens, ça inquiète. Ça interroge sur l'équilibre de ce binôme-là. Je traiterai des apprentissages adaptatifs et jusqu'à quel point les prendre en compte en dernier. L'accueil des parents, madame. Moi, je pense que le dialogue avec les parents est important. Je pense que le fait que les parents rentrent dans la classe, y compris en grande section et aussi souvent qu'ils peuvent, est important. Je pense que c'est pas mal que l'enfant aussi soit médiateur de certaines relations entre l'école et les parents. C'est-à-dire, est-ce que c'est toujours l'enseignant qui discute avec les parents ? Enfin, comment les parents peuvent trouver une place dans ce moment d'accueil dans la classe en interrelation avec leur enfant ou avec d'autres enfants, ça mérite d'être vu. Je pense à une école, alors je ne sais plus si c'est Trappes ou Les Mureaux, mais c'est dans un secteur très défavorisé des Yvelines, où il y a une sorte de règle, c'est-à-dire que les parents qui circulent dans l'école sur le temps de l'accueil, ben, ils sont disponibles d'une certaine façon pour tous les enfants. Ils ne sont pas que là pour discuter avec les enseignants. Et on voit certains enfants aller vers des parents qui ne sont pas les leurs, avec un livre pour qu'on les leur lise ou pour qu'on regarde le livre avec eux. Il y a des choses très intéressantes de ce point de vue-là. Et je suis bien d'accord avec vous sur la nécessité du lien. Alors après, il faut voir combien de temps ça dure. Il faut voir quelle est la fonction aussi pour l'enfant. C'est-à-dire qu'il faut aussi que dans la perspective du CP, certaines choses se mettent en place sur les séparations, sur des choses comme ça. Donc comment on y prépare, ça reste à voir. Ça dépend aussi comment l'accueil est géré. Enfin, je repense à la dernière classe que j'ai vue, c'était la semaine dernière. J'aurais préféré effectivement que l'enseignante soit plus présente pour les enfants que pour les parents, parce que la manière dont ils se sont gentiment échauffés pendant le temps d'accueil a largement pesé sur l'activité qui s'est déroulée après. Mais bon, ça, on en a discuté avec elle, c'est pas grave. Sur la primarisation de la maternelle, oui, on est d'accord. Oui, tout le travail qui est en train de se faire dans la continuité de l'article de loi qui redéfinit l'école maternelle et qui redéfinit un équilibre de l'école maternelle comme soutien au développement, comme préparation aux apprentissages, mais pas que, va dans le sens que vous dites, quoi. Va dans le sens que vous dites au sens de... On tente de déprimariser. Je ne cache pas que pour moi, c'est un chantier qui est largement devant nous parce qu'il y a des habitudes prises à l'école élémentaire de ce que la maternelle a préparé. La manière dont on considère aujourd'hui que certaines choses doivent être faites à la maternelle comme si elles étaient faites pour toujours. Je prends l'exemple de l'écriture, par exemple. Ils commencent à apprendre à écrire à la maternelle. C'est tout juste si on ne nous dit pas maintenant au CP, ben c'est fait, quoi. Enfin, ce n'est plus notre job. Les représentations qu'ont construit les parents de ce que faisait l'école maternelle, je pense qu'on va avoir un gros travail de communication là, sur le nouveau programme que vous aurez avant la fin de ce mois. Enfin, jusqu'à quel point les apprentissages adaptatifs peuvent être, intéressent-ils les enseignants ou peuvent-elles être pris en compte par les enseignants? D'abord, vous le dites, il y a le fait qu'il faut admettre comme enseignant qu'ils ne peuvent pas ne pas en faire. Donc, il y a des moments où on est dans cette logique-là, avec certains ateliers en autonomie, avec des choses comme cela. Bon, la question, c'est de savoir ensuite comment on reprend ce qui a été fait avec les enfants pour donner un peu d'efficacité quand même, hein, parce qu'on peut accompagner ou pas. Sur la question de ce qui se passe avec les familles, enfin, dans les familles... Ça dépend de quelle famille vous parlez, je vais dire. Parce qu'il faudrait convaincre justement toutes les familles qu'elles, je vais le dire comme ça, même si c'est pas... qu'elles apportent quelque chose à leur enfant, quoi. Par ce qu'elles font, elles enseignent quelque chose à leurs enfants. Je repense à ce qu'on a vu se pratiquer au Danemark, par exemple, sur le langage. Comment on implique les parents dans le regard qu'ils peuvent porter sur le langage de leurs enfants à la maison, y compris dans une langue qui n'est pas celle de l'école. Je pense que s'il y avait des apprentissages adaptatifs à valoriser dans certains milieux et sur lesquels nous devrions nous intéresser, mais parfois il faut des interprètes aussi, c'est cela. Pour moi, je pense que c'est une variable très importante de savoir pour l'école maternelle quel est, si je puis dire, l'état de langage de l'enfant dans sa langue maternelle. Alors avec d'autres, c'est beaucoup plus simple, mais celui-là m'intéresserait beaucoup. Quelles sont les comptines, tout un tas de choses, mais dans la langue, puisqu'on sait que plus ils sont avancés dans leur langue, plus on va pouvoir mettre des choses en place et des choses un peu particulières. Mais ça mériterait plus de développement que ça.
Et je voudrais remercier, je crois, en votre nom, Viviane Bouys, pour sa contribution.
Merci de votre invitation.